vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Avec NTM, ce groupe s'est imposé depuis maintenant 30 ans, et oui, comme un des piliers du rap français. Des textes pointus, pétris de réalisme, de culture orientale et d'autodérision, qu'on étudie d'ailleurs jusque dans certaines universités américaines. Des noms d'artistes inspirés par l'Égypte ancienne et les cultures asiatiques, quelques influences martiennes aussi, mais un ADN ancré dans le sud, la Méditerranée, et dans les quartiers nord de cette ville de Marseille, qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Vous l'avez compris, IAM est à l'honneur dans VMDN à l'occasion de la sortie de leur deuxième EP, de leur deuxième mini-album en trois mois, entre première vague en juin et deuxième vague le 17 septembre. Akhenaton et Shuriken sont avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Sans musique, je pourrais jamais. Ces heures seraient des fleurs fanées. Peut-être que mes flots seraient plus hésitants. Pour ça, je voudrais mon rappeur favori pour président. Dur d'y croire quand ceux qui élisent sont loin de peindre des anges noirs dans les églises. Pas besoin de feindre alors, me contenterai de peu. Voir le soleil se lever au fond de tes yeux, ces hivers magnifiques.
Bonjour Shuriken.
Et bonjour.
Bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Très bien, merci beaucoup. On est donc là entre la première et la deuxième vague. Pourquoi est-ce que vous avez voulu sortir justement ces deux volets de part et d'autre de l'été?
En fait, on n'a pas réellement calculé au départ.
C'est pas une volonté.
C'est un peu l'annulation à répétition des tournées qu'on avait programmées, qui nous a poussé vers les studios, vers l'écriture, vers la composition, vers l'enregistrement. Et on est retourné dans un mode de fonctionnement indépendant, on n'avait pas forcément d'impératif, on a pris notre temps. Et en fait, c'est un peu, ça sort quand ça sort. Et ce sont des vagues sonores un peu plus positives que celles qu'on digère tous les jours. On a envie aussi de sortir ce format-là pour que ce soit un format plus digeste. C'est une manière de redéfinir aussi l'écoute d'un album étalé sur de nombreux mois. Alors, parce qu'on trouve que la consommation de musique maintenant, c'est trois jours et puis bouf, on tourne la page et on passe à autre chose. On essaie de varier les formats, puis de sortir des objets aussi. On a fait un beau coffret avec un beau vinyle.
Oui.
Donc voilà, on se prend un petit peu la tête pour essayer de faire un truc peut-être un peu plus artisanal que d'habitude, mais voilà.
Avec des sonorités très électro sur ces deux volets.
Il y a un peu des deux parce que la musique qu'on écoute maintenant, c'est vraiment très très large. Et autant il peut y avoir des prods très organiques, et autant il peut y avoir aussi des prods très très actuels avec des sonorités beaucoup plus actuelles. Et un mélange des deux aussi, on aime bien le crossover entre les deux compositions.
Mais l'idée, c'était vraiment d'ancrer justement ces deux EP-là vraiment dans l'air du temps, parce qu'en plus, même le titre, quoi, première vague, deuxième vague, on est obligé de penser à la situation sanitaire.
Bien sûr, c'est une sorte de réponse positive. Voilà, d'un monde qui se juge comme étant essentiel, c'est-à-dire le nôtre, celui de la culture. Celui du plaisir, celui du partage, celui de l'échange, celui du sourire, qui répond à un monde de peur. Donc la musique, je pense, ça maintenant aujourd'hui, c'est plus qu'adoucir les mœurs. Hein.
Oui, la musique soigne l'âme. C'est un peu le mot d'ordre de ce projet. Il y a une mise en garde aussi qui va avec. Hein. Si la culture devient pauvre, c'est le monde entier qui s'appauvrit. Ça veut dire que les salles de spectacle fermées, c'est un symptôme d'une société qui va pas bien?
Non, c'est une société qui écoute ses propres peurs, qui s'écoute en boucle et qui a des credos, ne fait plus fonctionner la raison, mais qui fonctionne de manière irrationnelle en étant terrorisé systématiquement.
Si le but c'est de protéger les gens?
Je pense pas que le but de tout le monde soit de protéger les gens. Je pense que le but de certaines personnes, oui. Je pense que d'autres font du commerce. Je pense que d'autres réagissent de manière très individuelle. C'est se protéger. Les gens, ils s'en foutent. Je parle de la société. C'est plus un jugement sur la société en général. Dans l'impasse dans laquelle on est rentré, c'est pas une impasse qu'on rencontre depuis un an et demi. C'est une impasse dans laquelle on s'est engouffré il y a une vingtaine d'années. Et quand on a choisi délibérément d'inonder les télévisions de télé-réalité, de chaînes d'information en boucle, et puis renvoyer et amplifier par tous les réseaux sociaux où les gens s'écoutent eux-mêmes comme étant leur propre médium. C'est une vraie, nous on a cette période au niveau de la sociologie, elle est super intéressante. Elle a amplifié...
C'est ce que disent beaucoup d'historiens. C'est toujours dans les périodes de crise qu'on découvre les profondeurs de la société et quels sont les problèmes qui préexistaient.
Ouais. Là, mais ça fait un moment qu'on est dans une société maintenant qui prône le moi, moi, moi et moi. Donc ça va pas, ça nous amène pas vers une porte de sortie heureuse, ça.
Ça, schlingue les boîtes noires.
Guerre contre les chars.
On n'est pas des codes barres.
Regarde nos codes, mec.
On n'est que des hommes d'air. Qu'on guérit pas la somme ni par un voile de cauchemar. J'pars au bal à Vienne. Voir les RN, Airbnb.
Costard flanel.
Power. Je le sens autour, c'est la haine même. Quand j'entre sur la piste en Y sur ma LM.
Le monde ne rêve pas de paix.
Il veut du pipeline. Comme Trump veut de la pouffe sur un green au sunshine.
Allé dans mon café.
Vienne changer, c'est trop tard.
J'avoue.
Qu'on passe à caravane et des beaux bars. Mais un de ces quatre vieux,
ils seront tous que
10 ou 12 que crève tous les pneus. L'avenir se dessine à la mine de coups de bluff. Nadine,
calme-toi,
pose ton cul et écoute meuf. On ne veut pas ta peau, on ne veut pas taper.
Ces gardiens s'y voient beau
et croient qu'ils peuvent taper. Loin des solutions, tes potes cherchent des punchlines. Putain, moi je rêve de faire leur figure en punchbag.
La France, c'est nous aussi.
Perso, je m'en tape coup si je suis pas dans air faible.
Et son coup de barbe.
Des mots de mes cookies, au pays des toupies. Dans le bus du futur, on a la place à tout qui.
On va la fermer maintenant.
Poison d'avril, le progrès d'acte du bon. Poison d'avril.
Ayam, Kenaton et Shuriken sont avec nous dans VMDN sur RFI. Et le clip de ce titre, Poison d'avril, a été réalisé, je crois, dans la même discothèque que celle qui avait abrité Je danse le Mia.
Enfin, exactement. Du moins, ce qu'il en restait.
Oui, voilà, parce que l'ambiance n'est pas tout à fait la même. J'invite les auditeurs à aller visionner.
Très ambianté.
C'est pas du tout pareil, mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil au niveau réalisation, hein, ouais, en particulier au début du clip. L'idée, c'était quoi? C'était de montrer ce qui a évolué, justement, pendant toutes ces années-là.
C'est une sorte de métaphore de la culture et de l'état de la culture en général et de la vision de la culture dans nos sociétés. Ouais. Et de la définition de ce qui est essentiel ou pas. C'est une manière aussi de montrer que dans des périodes compliquées, vous l'évoquiez tout à l'heure, la culture est le baromètre d'une société et que on s'aperçoit que tous les régimes, absolument tous les régimes dictatoriaux, se sont attachés à détruire la musique. Les livres, les représentations théâtrales, ça a été le premier acte qui a préparé les sociétés à vivre des périodes un peu plus difficiles.
Ça veut dire que vous pensez que la décision qui a été prise de fermer les discothèques, de fermer les librairies, de fermer les théâtres pour des raisons sanitaires préfigure une sorte de dictature en France? On peut aller jusque-là?
Ça peut arriver, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est une. Vous sentez pas que la société glisse petit à petit vers quelque chose qui laisse des espaces de liberté de plus en plus restreints. Moi, en tout cas, je sens. Comment vous appelez, par exemple, des régimes qui bafouent le droit du travail, le droit de l'homme, toutes les réglementations européennes, les lois européennes?
Mais c'est-à-dire qu'il y aurait une idée cachée derrière toutes ces mesures sanitaires pour arriver vers les dictatures?
Non, mais l'occasion fait le larron.
Finis ta question.
L'occasion fait le larron, c'est-à-dire que quand on peut profiter de certaines choses, on le fait soit pour vendre, soit pour... Moi, je suis pas dans ces histoires de d'extraterrestres, de vente, tout ça, mais bon, il est arrivé de par l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle juste un truc à cette antenne, Hitler a été élu. Hein.
Oui, bien sûr.
Et il a pas fait un coup d'État.
Non, bien sûr.
Donc, il faut faire très attention quand j'ai dit 2022, ça schlingue les bottes noires. C'est un état d'esprit qui perdure à travers plusieurs gouvernements. Ce qu'on a connu.
Parce que ces mesures sanitaires-là, elles n'ont pas été prises qu'en France, on est bien d'accord.
Elles n'ont pas été prises qu'en France, elles sont quand même.
Loin de là.
Elles sont quand même très poussées en Arabie Saoudite, au Turkménistan, au Tadjikistan.
Oui, mais pas seulement, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne aussi, des mesures. Pas exactement les mêmes.
Mais
aussi des mesures de restriction des libertés pour des raisons provisoires et pour des raisons sanitaires ont été prises. Il n'y a pas qu'en France.
Alors, Pour moi, c'est
savoir... Notamment au niveau de la fermeture des salles de concert, des spectacles
savoir.
Et des commerces aussi. Hein.
Mais par exemple, quand on est sur une analyse d'une situation, il faut l'analyser dans son ensemble. Il faut que vous, les journalistes, vous fassiez amplement votre travail. Quand on a quelqu'un qui est sur une place publique et qui vend un médicament qui est nouveau et qui ne fonctionne pas, vous appelez ça comment ?
Ben, j'en sais rien, moi.
Un médicament qui ne fonctionne
à qui
pas.
Ben, un médicament... Ah ben, un charlatan, peut-être.
Voilà, oui. Je suis d'accord.
Ben, à qui vous
donc,
pensez ?
Ben, par exemple, des gens qui sont encore au comité scientifique et qui sont proches du pouvoir ont fait acheter pour 2 milliards de remdesivir à l'Europe la veille où le médicament a été interdit, déclaré nocif et ne fonctionnant pas. Mais, où sont les sanctions ?
Ceux qui promeuvent l'hydroxychloroquine aussi, ce sont des charlatans aussi pour vous
hein ? Ah non, parce que l'hydroxychloroquine, ça c'est là depuis 70 ans.
Mais ça ne marche pas contre le Covid.
Ben voilà. Mais ce ne sont pas des charlatans. Ils promeuvent pas un médicament à 1900 euros qui ne marche pas. Ils promeuvent un truc à 5 euros qui ne marche peut-être pas. C'est très, très, très différent. La situation est très différente. C'est-à-dire que l'acharnement qu'il y a eu sur l'hydroxychloroquine, vous devriez vous la diriger et vous demander pourquoi les procès ne sont pas... Parce que moi, le quoi qu'il en coûte et le remdesivir, je le paye.
Bon, et vous-même, Akhenaton, puisque on a appris par l'été que vous avez été hospitalisé, réanimation ou pas, on sait pas trop, mais ça, c'est votre vie privée.
Non, pas du tout.
Mais bon, pas de réanimation, très bien. Donc, vous allez bien aujourd'hui, visiblement. Ah oui. Votre opinion n'a pas changé d'un iota.
Pas
d'un
iota.
Non à la vaccination, non au pass sanitaire.
Non. Ça, c'est tout dans le sac, ça.
Non à la vaccination. Obligatoire.
C'est l'obligation qui pose problème.
Mais il n'y a pas de vaccination obligatoire aujourd'hui en
pas
France.
Pas la vaccination.
Obligatoire
pour certaines professions. Obligatoire. Il n'y a pas de vaccination obligatoire générale aujourd'hui en France.
Mais à un moment donné, quand, par exemple, moi, je suis artiste.
Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Vous pensez vraiment que c'est.
Il y a toujours la possibilité de faire un test PCR aujourd'hui par rapport au pass sanitaire.
Vous pensez vraiment que ça laisse des options ?
Non, mais moi, je n'ai pas donné mon avis, je vous pose des questions. Mais je veux dire, toujours est-il qu'aujourd'hui en France, on peut aller n'importe où. Sans être vacciné, à condition de faire un test PCR, sauf pour certaines professions spécifiques comme les professions médicales.
C'est exactement ce qu'on dit. Mais nous, après, attention, on n'est pas bêtement anti. On est pro rien. On
ni
est
anti juste, ni, en pro, anti, ni pro.
C'est juste l'obligation qui pose un problème, parce que ça va pas avec la liberté de tout un chacun de faire ce qu'il veut de son corps.
Quitte à mettre en danger la vie des autres, parce que vous parliez d'égoïsme.
Mais quel danger ?
Alors, attendez, est-ce que le pass sanitaire, c'est pas aussi un geste altruiste ? Même le masque, là, on porte tous le masque.
Est-ce que tu la vois ?
Aujourd'hui, c'est aussi pour ne pas risquer de contaminer les autres, on est d'accord ?
Oui, mais par exemple, moi, j'ai ma belle-mère qui est doublement vaccinée, qui va dans une soirée où il n'y a que des vaccinés, qui finit avec le Covid pendant 10 jours au lit. Moi, après, je juge sur pièce, moi.
Il y a 74% des gens qui sont en hospitalisation en soins critiques en Israël qui sont vaccinés.
Les médecins ont répondu, c'est un problème statistique.
On peut discuter, évidemment,
si tout le monde est vacciné, tous les gens qui vont être contaminés l'auront été.
On peut discuter de tout sauf des chiffres. C'est ça la publicité du gouvernement. On peut discuter de tout sauf de nos chiffres, en fait. C'est là où, justement, le côté... imposition et dictatoriale s'installe. C'est-à-dire que si on ne peut pas en discuter, si chaque fois qu'on parle, on est traité d'antivax, de complotiste, mais à un moment
donné... Je précise, important d'apporter de la nuance.
Bien sûr.
C'est ce qui nous fait cruellement défaut. Ça manque, là, quand même.
Ça manque. À un moment donné, l'altruisme... Moi, je ne peux pas prendre des leçons de solidarité, d'altruisme de la part de gens qui sont solidaires depuis avant-hier. Moi, dans ma vie, j'ai mené ma vie en pensant et en m'effaçant pour les autres de nombreuses fois. Et des gens, d'un coup, le rappel de la faucheuse arrive. Et d'un coup, ils se trouvent une âme altruiste. Ils font le vaccin pas pour les autres, c'est ils le font pour eux.
Je devais avoir 12 ans et je marchais vers le métro. Le sol couvert de seringues, de mots d'arrêt, de mégots. C'était le taf des bandes violentes, délinquants pubères qui voulaient échanger ta veste contre un coup de cutter. Un parfum de tiers-monde dans le royaume de la French. Discussion cours d'école qui a fumé le juge Michel. On allumait nos premières clopes, on trouvait
la moquette. Les grands attaquent et les fourgons avec des lances roquettes. Brancher la sono, les spots, lumière noire sur les tricots. Les minches touchées à l'opium pour danser le disco. On se déplace et on pack, deux ou trois sur les motos. Les jeunes du ghetto trippés sur les stones, les dors et Toto. America, Super Trump, les classiques de Marley. On parlait, rêve, que posé sur les tas de carrelés. Certains enrobaient leurs mots, drapés d'une belle prière. Ou sur un briquet dans un fond de cuillère.
Tu n'es pas où cette vie n'a connu tant de plaide. T'as connu tant de plaide, t'as connu tant de plaide. Où sa jeunesse envoyait du rêve dans les veines. Du rêve dans les veines, du rêve dans les veines. Du rêve dans les veines, du rêve dans les veines. Du rêve dans les veines, du rêve dans les veines. Du rêve dans les veines, du rêve dans les veines. Du rêve dans les veines, du rêve dans les veines.
Cette merde nous a volé une part de notre innocence. Au club de la violence, nos vies se sont abonnées. Toutes nos places de jeu, des tribunaux sans justice. Où les plus pauvres inhalent le sac rempli de corps à rustine. Chaque jour suer la tension, paille, enfance marrante. Ils trouvaient leur échelle au fond du portefeuille des parents. Au bout de peine trop grande et d'existence trop lasse. Leur vie s'est arrêtée d'un coup au bout d'un fusil de chasse. On roquait les Lévis, Nastas pour les rouler. On notait des boulettes, telle ou telle, la coulée. T'as vu la sœur à Mario, t'as vu la zine à saouler. J'ai croisé au métro la rose, c'est devenu un boulet. C'était l'époque de l'héros, nos grands appelaient ça la gaffe. Les alambics, la chaux, la soude et l'ammonium dans la cave. On y a perdu des amis, on y a perdu des cousins. J'ai le sentiment que je reviens de loin.
Tu n'es pas où cette vie n'a connu tant de plaide. T'as connu tant de plaide.
Du rêve dans les veines, I am dans VMDN sur RFI, un titre qui résonne particulièrement bien avec avec l'actualité. C'est souvent comme ça qu'on sort des titres et ensuite l'actualité nous rattrape. Les références donc à Marseille, les souffrances liées à la drogue, au banditisme, à la violence, au règlement de compte.
C'est toute une période en fait.
Oui, oui, voilà.
C'est une période des années 70 où l'héroïne
dans le titre,
vraiment drabage.
On regardait effectivement dans le rétroviseur. La situation, est-ce qu'elle a tant changé que ça? Eu égard à ce qui s'est passé ces dernières semaines,
il y a des violences qui sont déplacées.
C'est la façon qui est différente. L'héroïne, ça fait des dégâts vraiment. Là, ce qu'on vit en ce moment, c'est une violence pure. L'héroïne, c'est une violence, c'est une déchéance. Ça a tué, ça a décimé les familles entières cette période-là.
Moi, je parle d'un exemple. À un moment donné, sa vie s'est arrêtée au bout d'un fusil de chasse. C'était un grand que je connaissais qui était à l'école avec moi, qui s'était fait tuer par ses parents. Ses parents en avaient marre qu'il vole dans leur sac, qui les agresse avec des couteaux. C'était une période extrêmement violente, extrêmement dure. En même temps, ça faisait pas l'actualité nationale et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a érigé le fait divers et on le met en boucle. Et ce qui guette notre société, c'est cette peur qui s'amplifie. On écoute nos peurs, elles sont en boucle, elles montent, elles augmentent, et on voulait montrer qu'à travers cette époque-là, Marseille avait connu une époque de violence. Marseille a connu une époque ultra-violente, et je le rappelle sur beaucoup de plateaux, mais c'est important de le rappeler, 1985 est l'année où il y a eu le plus de morts par arme à feu à Marseille.
Jusqu'à aujourd'hui.
Donc, je sais pas si on connaît quelque chose de plus violent. La société change, les besoins et les demandes changent.
Alors justement, les besoins et les demandes, le président de la République a essayé d'y répondre en allant sur place pendant 3 jours.
20 ans,
Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 jours de visite, de l'atmosphère dans laquelle ça s'est passé et des réponses qu'il a apportées ou pas? J'en sais rien, ça dépend de ce que vous allez me dire à la population.
On était énormément sur Paris, donc on n'a pas trop suivi. Il sera jugé sur des actes. Et puis j'espère qu'il y aura une traçabilité de l'argent. Il faut savoir
que... Le gros problème, c'est l'argent à Marseille?
Non, une traçabilité de l'argent.
Oui,
c'est-à-dire,
justement.
Non, le gros problème, c'est où il est investi.
Voilà, donc il faut investir de l'argent et il faut contrôler.
Il faut surveiller,
Il faut éviter que quelqu'un se serve au passage, quoi. C'est à peu près ça.
C'est partout en France, malheureusement.
Plus à Marseille qu'ailleurs.
Non.
Bon. C'est juste qu'à Marseille, c'est plus mis en avant.
Vous connaissez ce département 92?
Oui, absolument. Ouais. On y est là. Voilà. Ici les Moulineaux, c'est dans 92, les
Hauts-de-Seine. Avec des gens, avec des noms de famille très gentils qui tapent dans la caisse, ça c'est arrivé. C'est l'histoire de ce département.
Ça peut arriver absolument partout.
Voilà,
dans le monde,
donc, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui est important pour Marseille, c'est l'éducation, c'est le sport. c'est la culture. Je comprends bien qu'on augmente les moyens de la justice et les moyens de la police, c'est parfaitement, ça s'entend parfaitement, parce qu'effectivement, des fois, il y a des effectifs trop maigres sur le terrain. Mais au bout d'un moment, moi, j'aimerais aussi qu'on pratique du sport et des sports de combat. Donc on est au contact avec les voyous, mais avec les policiers aussi. Et ils travaillent dans des conditions, comme là, moi, par contre, je sors de l'hôpital, je peux vous en parler de l'hôpital français. Hein. J'étais à Raqqa. Ils calculaient le scotch qu'ils me mettaient, il n'y avait pas de papier toilette, pas de savon, et tout le personnel soignant s'est plaint indirectement à moi et est venu me parler de la situation. Donc, oui, c'est une question d'argent, mais c'est une question de où on met l'argent.
Alors justement, donc vous parliez de la culture à l'instant, dans le 1,5 milliard qui a été annoncé par le président de la République hier, il y a trois pôles principaux, les transports, la sécurité et la culture, justement, notamment avec une volonté d'appuyer sur le cinéma, sur le tournage des films et des séries. Il veut créer, a-t-il dit, le président de la République, des grands studios de la Méditerranée. Ça va dans le bon sens ?
Ça va dans le bon sens, mais surtout, ce qui manque surtout, là, c'est la réouverture des centres sociaux, la réouverture des terrains de sport dans les quartiers où il faut faire 15 kilomètres pour pouvoir en faire, la réouverture de plein d'endroits comme ça qui font qu'il y avait de la vie et qui occupait les gens et qui occupait, culture ou pas. Je pense que quand on laisse la place au vide, ce vide est remplacé par quelque chose de pas très fameux.
Moi, ce qu'on a connu, nous, c'est le contact avec les adultes de manière très positive et pas uniquement répressif, y compris avec les policiers qui organisaient des tournois de foot, qui faisaient des stages de voile ou des stages de moto. Je parle de plusieurs membres du groupe IAM qui ont eu la chance de connaître ça. Les gamins d'aujourd'hui n'ont pas la chance de connaître ça. Donc, le rapport à l'adulte, il est à travers les parents, à travers l'école et à travers les policiers conflictuel. Et pour eux, réussir, c'est avoir cette belle voiture, ce beau sac et cette belle femme à son bras. Mais qui leur a vendu ce rêve-là ? C'est pas nous. C'est pas des Che Guevara, ces enfants-là. Ce sont les enfants de la société de consommation et des émissions qui ont été vendues par les mêmes gens qui se plaignent de la délinquance. Non, mais c'est quand même un monde maintenant. Ces gens-là, ils sont accouchés d'idées et de concepts défendus dans la télévision depuis 20 ans où on dit que trahir son copain c'est bien, que avoir plein de d'habits de marque et de grosses voitures c'est là tu deviens quelqu'un, c'est un problème de société et de culture.
Le lifestyle.
Merci beaucoup à tous les deux, Shuriken et Akhenaton Ayam, dimanche à Dijon. Le 12 septembre à Malo-les-Bains dans le Nord, le 17 à la Foire de Pau, le 25 à Talence près de Bordeaux, et en octobre un début du Warrior Tour avec Nancy, Reims, Genève, Lyon, Besançon et j'en passe, en passant notamment par l'Olympia de Paris. Merci beaucoup. On va se quitter avec l'un des titres les plus positifs peut-être de la première vague, ça s'appelle Tout ce qu'on est.
Ce qu'on veut, c'est que les coups se changent en étreintes, que le courage revienne là où règne la crainte, que les champs de mines redeviennent des champs de fleurs. Ne pas lui céder quand la haine nous effleure. Je vois bien depuis la scène que tout ça c'est possible. Croquer cette vie à fond sans se prendre pour cible. Allez viens qu'on échange des idées, pas des gifles. Et tant pis si ça choque la peur et le racisme. À leurs yeux, nous ne sommes après tout que des chiffres. Et devant les ordis, ils attendent qu'on s'étripe. C'est comme ça qu'ils agissent, c'est comme ça qu'ils divisent. Et c'est pour ça qu'ils visent sans cesse ces liens qui nous unissent, ouais. Était-ce un rêve ou bien un mirage? Tant de traits différents sur un même visage, tant de gens répondant à l'appel du message, tant d'êtres différents sur le même rivage. Ouais, était-ce un rêve ou bien un présage? Tant de cœurs souriants derrière le grillage, tant de pieds à marcher dans le même sillage, armés d'une rage à plus de 1000.
Tout ce qu'on est, IAM dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, José Marinho, Fanny Blechner, Amélie Beaucourt et Alain Pilot, bonjour.
Bonjour François.
Pas mal de musique aussi dans ce premier café gourmand de la saison. Par exemple, avec vous, José, vous avez tendu vos oreilles du côté de l'Allemagne.
Oui, pour vous parler de la reine de la soul, made in Deutschland, Joy Denalan.
Avec vous, Alain, une promenade à La Réunion.
On va de bas de carré se promener en réunionnais dans le texte en compagnie de Guillaume Chartin, alias Ojoun, et son album conceptuel instrumental.
Avec vous Amélie, on va s'aventurer vers d'autres contrées au-dessous de la ceinture.
Oui, avec un livre provocant et rempli d'humour noir où comment une patiente allemande consulte un gynécologue juif et lui parle de ses rêves érotiques avec Hitler. Jewish Cock, c'est le premier roman de Katharina Volkmer.
Mais d'abord, direction un autre studio d'enregistrement que celui où nous nous trouvons. Fanny, vous êtes allée en banlieue parisienne, à Montreuil, c'est vraiment de l'autre côté de Paris, assister à l'enregistrement d'un podcast.
Oui, dont les épisodes verront bientôt le jour, fin octobre, et le premier sera d'ailleurs disponible sur le site de RFI. Alors, de quoi sera-t-il question dans ce podcast? Eh bien, du rapport Braza. Alors, le rapport Braza, c'est une enquête administrative menée au début du XXe siècle par l'explorateur Pierre Savornian de Braza, à la demande des autorités de l'époque et portant sur le fonctionnement administratif de l'AEF, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale française. Il fait état de nombreuses exactions, des violences rapportées noir sur blanc. Et pourtant, ce rapport, une fois lu, bien, il sera enterré avant d'être redécouvert et rendu public récemment. Ce texte, les journalistes à l'origine du projet ont voulu le mettre en valeur en y intégrant une part de fiction. Thibaut Delavigne s'est chargé de cette partie.
C'était une façon pour nous de faire vivre toutes les voix qui sont contenues dans le rapport, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des verbatims d'interviews des inspecteurs qui accompagnaient Braza lors de sa mission et qui ont écrit noir sur blanc ce que les gens de l'époque leur racontaient, les habitants de l'époque leur racontaient. Donc c'est des témoignages qui sont assez rares, assez précieux.
Et alors Fanny, quelle est l'intrigue autour de l'aspect plus romancé?
Eh bien, l'histoire d'un jeune ethnologue métis, Johan, qui parcourt l'Afrique équatoriale française en 1929 pour le compte de la faculté de Strasbourg et qui est également à la recherche de sa mère. La célèbre chanteuse béninoise Angélique Kidjo interprète la sœur de cette femme disparue.
Jusqu'au jour où ils sont arrivés dans un village où c'est moi qui répondais en disant oui. Ça a été comme si je voyais le fantôme de cet enfant qui est né tout petit, qui est parti quand il était tout bébé fripé, quoi. Mon personnage, c'est justement l'ami de ma meilleure amie, qui était sa mère, et qui a été violée par ce Français qui travaillait dans une grande concession, qui faisait la loi, la pluie, le beau temps là-bas. Quand l'image n'est pas là, il faut vraiment rentrer dans le personnage, quoi, pour que la personne qui l'écoute puisse ressentir et imaginer cette histoire-là aussi.
La voix d'Angélique est toujours reconnaissable, évidemment, quand vous êtes arrivée au studio, Fanny, les comédiens étaient en plein enregistrement.
Oui, c'est ça, qu'est-ce que visser sur les oreilles, et voici ce que ça donne.
Ils partaient des mois, et je restais seul avec une nourrice, et puis ils rentraient, et ils repartaient. Les seules discussions que j'avais avec lui, c'était quand il me racontait des histoires folles à propos des tropiques, des coutumes des indigènes. Il y avait toujours du danger, du courage, de la morale chrétienne dans ses histoires. Il disait que son métier, c'était l'orgueil de notre civilisation supérieure.
Et tu y as cru, à tous ces mensonges?
Moi, je dirais que ton père était sincère, au moins en partie. C'est ce que j'ai appris à force de côtoyer les colons. Ils commettent les pires horreurs et me refusent de les accepter comme...
En radio, on connaît bien ça. Hein,
oui, enfin, ça dépend qui. Hein.
Moi, je connais bien, en tout cas.
Ah, moi aussi.
Et les comédiens aussi. Alors, outre Angélique Kidjo, on trouve l'acteur Gaël Kamilindi de la Comédie française, né en République démocratique du Congo, et le rappeur, auteur et compositeur gabonais Ekomine Dong.
Donc, toutes les voix des personnages sont interprétées par des acteurs d'origine africaine.
Oui, c'est important pour les porteurs du projet.
On voulait avoir des gens du continent africain. On a essayé de faire très attention à ne pas faire d'européanocentrisme, etc. C'était un truc qui était important pour nous, parce que Charlie et moi, on est tous les deux blancs, donc c'était des sujets qui étaient importants.
Mais on a beau être comédien, l'exercice du podcast n'a rien d'évident. Écoutez ce qu'on dit à Gaël Kamilindi.
C'est quand tout à coup, il y a un immeuble qui s'effondre à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a que le son. Si on n'a pas l'image, on peut difficilement voir un visage qui se décompose, quoi. Donc il y a ça qui est assez compliqué. C'est comment être au plus proche d'une émotion qui change.
Gaël Kamilindi, et alors pour y parvenir, les répétitions s'enchaînent.
À partir du jour où j'ai compris qu'il avait honte de moi, je l'ai détesté à chaque instant. Lui et tout ce qu'il représentait. J'en veux à la terre entière d'avoir été abandonné, méprisé, considéré comme un moins que rien. Mais ce que j'ai appris dans les livres, c'est de pas lâcher. Jamais. Résister et lutter.
C'est une chose que nous avons en commun alors. Résister.
On la double. Peut-être il y a quelque chose d'un petit peu plus entre les dents pour Johan, tu vois, sur... j'en veux vraiment à la terre entière. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc où ils sont assez seuls, quoi.
Bon, et là, cette voix-là, c'est celle qui dirige les acteurs, c'est ça, Fanny?
Oui, c'est ça, Jean-François. Maya Boquet, c'est elle qui s'occupe de la réalisation.
Une première partie qui est vraiment la direction d'acteurs lors des sessions d'enregistrement. Et puis une deuxième partie qui va être tout le montage du travail. Une scène n'est pas prise qu'une fois. On la fait et on la refait jusqu'à trouver le ton le plus juste possible.
Alors vous l'avez dit, Fanny, toute cette partie fictive va se mêler à la partie purement documentaire. Est-ce qu'on ne risque pas de s'y perdre un peu?
Alors, c'était tout l'enjeu pour Charlie Dupio, un nom qu'on connaît bien sur RFI. Elle travaille très régulièrement pour la chaîne. Ici, elle s'occupe plus particulièrement de l'aspect documentaire, mais plusieurs dispositifs ont été mis en place.
Parmi ces dispositifs, il y a la musique. Va y avoir aussi des personnages fil rouge du documentaire. Et puis, il y a aussi la question de la langue, le fang, que du coup, on entendra beaucoup dans le documentaire, qui est une des langues parlées au Gabon, qu'on entend aussi un petit peu dans la fiction. Et on s'est dit que la langue permettait aussi ce passage.
Et la musique, elle sera signée Robin, comme celle qu'on entendait tout à l'heure au début de ma prise de parole. Ce projet, il a aussi un sens presque politique.
C'est aussi ce que soulève Lilian Thuram, qu'on entend aussi dans la partie documentaire. C'est parler de ce rapport, c'est aussi parler des racines du racisme, ou en tout cas du racisme à l'époque, et du racisme aujourd'hui. Et du coup, il y a vraiment du sens en fait à en parler, à écouter ce projet.
Et pour le moment, vous l'aurez compris, l'heure est encore aux enregistrements. Il y aura aussi un tournage au Gabon à la fin du mois. Et puis, c'est un projet Spotify original. Il sera donc diffusé exclusivement et gratuitement sur Spotify fin octobre. Mais je vous le disais, le premier épisode sera disponible sur le site de RFI.
Et j'ajoute que le projet sera présenté en écoute en avant-première au Paris Podcast Festival le 17 octobre. Allez, c'est l'heure du rendez-vous chez le gynécologue avec vous, Amélie. Vous allez nous plonger donc entre les jambes et dans la tête d'une patiente allemande qui consulte en Angleterre un docteur juif et se met à monologuer pour meubler le silence. C'est le premier roman de Katharina Volkmer. Il est déjà sorti aux États-Unis l'an dernier. Il est considéré d'ailleurs comme l'un des meilleurs livres de 2020 par le Times. Et il vient donc de sortir en France chez Grasset sous le titre évocateur Jewish Cock.
Oui, c'est le titre original du manuscrit que cette jeune autrice allemande a écrit en anglais. Un titre provocateur que je ne vous traduirai pas littéralement puisque nous sommes à la radio. Et qui a donné du fil à retordre aux éditeurs des 15 pays dans lesquels on trouve le livre dans le monde. Parce qu'appeler un texte pénis juif, ce qui serait un équivalent français poli, évidemment ça choque. Alors pour une fois, l'anglais est bien pratique. Hein. Vous savez, comme le français a le don de passer à la langue de Shakespeare quand il est effrayé par ses propres mots.
Certes.
Mais à l'exception des Italiens et des Russes, qui ont été les plus audacieux, les autres éditeurs ont allègrement dissimulé la poussière sous le tapis en nommant sobrement le roman « Le rendez-vous ».
Alors ça a tout de même du sens, hein, puisque le roman se déroule dans un cabinet médical, non? Alors de quoi ça parle?
Oui, c'est le cabinet du docteur Seligman, un gynécologue juif qui ausculte une patiente allemande, la narratrice, qui se met à lui raconter, sûrement pour briser le silence gênant qui s'installe lorsqu'un médecin ausculte vos parties intimes, qui se met à lui raconter ses amours, ses fantasmes, ses rêves érotiques, dans lesquels on croise toute une fresque de personnages, un homme marié dont elle était prise, un fabricant de jouets sexuels japonais ou encore Adolf Hitler. Mais seule la narratrice, les jambes écartées, parle, les yeux posés sur le crâne du médecin qui s'affaire entre ses cuisses. Il n'y a aucune autre interaction, elle monologue pendant près de 200 pages et Katharina Volkmer nous explique pourquoi.
Pour moi, ça a commencé avec la voix, j'ai commencé à entendre cette voix. J'ai voulu écrire une texte courte, mais intense. Et aussi, cette situation, parce qu'elle est allemande et elle parle avec un homme juif. Et je pense que c'est plus forte quand il reste silencieuse. Parce qu'elle doit travailler avec cette silence, elle doit naviguer cette silence. Et même s'il ne parle pas, pour moi, il est très présent. Et je dis toujours qu'il est mon caractère préféré. Le livre, on va le mettre en scène à Milan, à un théâtre, avec deux acteurs. Alors, il sera là. Parce qu'elle doit respecter sa présence, ses sentiments, tout ça. C'est beaucoup plus difficile et délicat. Hein? Alors, pour moi, c'était très important.
Et ce qu'il faut préciser, Amélie, c'est que la narratrice n'est pas dans ce cabinet médical pour un contrôle de routine.
Non, effectivement, c'est quelque chose qu'on devine assez vite à la lecture. La narratrice, comme vous dites, est en réalité un homme qui est né dans le corps d'une femme, corps dont il est prisonnier et qu'il rejette. Une façon pour l'autrice de parler de transidentité et de questionner les rôles que la société impose aux individus en fonction du genre qui leur est assigné à la naissance.
On est donc confronté à un personnage qui refuse son identité physique, mais aussi son identité nationale.
Tout à fait, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, Jean-François. Eh bien, Katharina Volkmer, elle va plus loin, on ne choisit pas non plus son corps et encore moins sa patrie et le bagage historique qui va avec. Car vous l'avez compris, face à ce médecin juif, elle ressent une honte profonde et aimerait faire oublier sa germanité. Dans le roman, la narratrice a d'ailleurs cette phrase qui résume bien son état d'esprit. « Quand j'étais plus jeune, je pensais que la seule façon de conjurer l'Holocauste serait de tomber amoureuse d'un juif. » Et cette question de la réparation, du vivre avec, la narratrice en pleine transition physique y revient sans cesse en conspuant allègrement ses compatriotes allemands et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Oui, je pense que tous les Allemands ont cette honte d'être Allemands. C'est un rêve de nous de cesser d'être Allemands. C'est, quand on va à l'étranger, on a toujours cette... Parce que notre histoire est encore très présente pour nous. C'est pas, à mon avis, c'est pas fini. Il y a beaucoup de continuités du fascisme dans l'Allemagne aujourd'hui. Il y a un grand problème avec le racisme, l'antisémitisme, c'est encore très présent, alors c'est pas fini. Hein? Et on peut le voir même dans les rues, dans l'architecture, c'est encore très... Ouais, c'est un pays un peu bizarre. Hein?
Alors autant vous dire, Jean-François, que la réception du livre en Allemagne a été plutôt mitigée.
Oui, c'était une publication un peu plus lourde, ou plus difficile. Il y avait des critiques positives, mais aussi des gens qui ont été vexés par des blagues. Et aussi, le fait que j'ai écrit en anglais, pour eux, c'est, ils m'ont dit que c'est lâche.
Et quel genre de blague, Amélie ?
Alors, il y a beaucoup d'humour noir, évidemment, des blagues provocatrices. La narratrice raconte, par exemple, comment elle imagine la vie sexuelle d'Hitler ou la couleur de son pyjama. Mais c'est aussi toute une réflexion sur l'absurde de nos sociétés. C'est donc très cynique, on rigole beaucoup, et c'était visiblement le but de Katharina Volkmer.
Pour moi, l'humour, ça peut ouvrir des espaces nouveaux. J'aime bien quand les gens rient, et puis ils sont choqués, parce que... Ils ne sont pas sûrs, mais est-ce que je peux rire ici? Et j'espère que ça fera penser. C'est mon espoir.
Oui. Joe Hitchcock, premier roman de Katharina Volkmer, paru aux éditions Grasset. Merci Amélie. Faites fi de vos préjugés. Et non, le meilleur de la soul ne vient pas forcément des États-Unis. Elle peut aussi venir de contrées, on va dire, un petit peu moins attendues. Alors, pour ceux pour qui l'Allemagne se résume à la Wurst und Kartoffeln, la saucisse pomme de terre, ou évoque musicalement parlant vaguement Wagner ou Kraftwerk, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, sachez que c'est aussi un pays de musique noire. Joy Donnellan en est la preuve chantante, José. Son album s'intitule Let Yourself Be Loved. Il sort donc aujourd'hui.
Véritable bijou, cerise sur le gâteau. Il a le cachet de la Motown.
Excusez du peu.
Et voilà, le célèbre label américain porte haut et fort la soul vintage de cette chanteuse nourrie à la musique noire de la plus pure tradition depuis l'âge de 16 ans. Joy Donnellan est née en 73 d'une mère allemande et d'un père sud-africain. Eh bien, ses origines croisées ont déterminé son empreinte artistique.
I grew up with a white mother and a black father.
Je suis née d'une mère blanche et d'un père noir qui se sont rencontrés pas si longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà à l'époque, c'était difficile pour eux de vivre une histoire d'amour et d'être un couple. Donc je suis considérée comme métisse, mais j'ai du mal à m'assimiler à quelqu'un de blanc, déjà à cause de la couleur de ma peau. Mais ça s'est également traduit dans mes influences, dans ce que j'aime au niveau musique. J'écoutais beaucoup de hip-hop, de rap, de choses comme ça. Donc oui, je pense que ça a forcément joué dans mon évolution à moi et dans mon style musical à moi. Mon papa était noir, il avait souvent beaucoup d'amis africains qui venait à la maison, ça parlait de l'apartheid, de tout ce contexte-là. Donc forcément, oui, ça m'a imprégné. Et quand mes parents voyageaient en Afrique du Sud, ils n'avaient pas le droit de voyager ensemble, puisque mon père n'avait pas le droit de s'afficher avec une femme blanche. Donc voilà, encore une fois, tous les thèmes de l'injustice, de l'apartheid, tout ça, ça a été vraiment imprégné en moi dès le plus jeune âge. C'est un petit peu une documentation de ce qu'a été l'apartheid, en commençant donc en 76 avec toutes les émeutes des élèves qui refusaient d'apprendre ce qu'on appelait l'Afrikaans. Il y a des noms de véritables membres de ma famille qui existaient vraiment, qui sont impliqués dans l'histoire également et qui sont dans la chanson.
Et la chanson en question, c'est bien celle-ci, hein, Soweto 76. Un titre très engagé, José.
Exactement. Elle a été élevée à la sauce militante. Joy a fait de la musique son arme. Ce qui est impressionnant, Jean-François, c'est également sa grande capacité à embrasser tous les styles, rap, blues, hip-hop, la germano-sud-africaine a le rythme dans la peau. Chez elle, la musique est une affaire de famille, comme le prouve ce morceau qu'on écoute, Soweto 76, où figure Hugh Masekela, trompettiste mondialement connu, qui n'est autre que son oncle.
Hugh Masekela,
He was one of the most important trumpet players.
Non seulement c'était quelqu'un de proche, mais c'était, comme vous le savez, un énorme musicien. Et en fait, il a grandi dans la maison de famille de mon père, parce que mon grand-père, donc le père de mon père, était quelqu'un de très, avec beaucoup d'influence là-bas, qui permettait aux gens d'habiter chez lui, d'obtenir des passeports, par exemple, pour voyager, ce qui a été le cas. Et donc, du coup, j'avais aucun problème à l'appeler et lui dire, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que voilà? Et ça s'est fait assez facilement. Et grâce à mon grand-père, il a pu justement voyager, obtenir ce passeport et démarrer une vraie carrière internationale. C'est plutôt mon côté noir qui m'a rapprochée de tout ça. Par exemple, j'ai décidé que j'aurais voulu travailler avec un des membres du Wu-Tang Clan. Je suis allée à New York et je m'étais fixé comme but, je ferais quelque chose avec cet homme-là. Et ça a été le cas. Donc en fait, c'est tout ça et tout ce côté-là, au contraire, qui m'a rapprochée, qui m'a permis de faire certaines choses dans ma carrière. I just go for it.
Suite au succès de ses albums, Joy Donnellan devient une artiste très sollicitée. Elle collabore avec des stars comme Youssou N'Dour ou les Maotela Queens, les reines du Mbakanga sud-africain.
Oui, style de musique zoulou. Au-delà de son talent, elle est polyglotte, chante en anglais certes, mais aussi dans les langues africaines Tsonga et Kosa. Elle est ethnie de son père. L'artiste aborde des thèmes souvent autobiographiques comme l'amour, ses blessures et la solitude, celle d'une métisse en Allemagne appartenant à une minorité.
I have felt lonely many times.
C'est vrai que je me suis souvent sentie seule en grandissant. Grandir à Berlin en Allemagne, c'est pas la même chose que grandir en France ou grandir aux États-Unis lorsqu'on est métisse. La plupart des gens qui habitent Berlin en Allemagne sont blancs. Il y a très peu de métisses. Ou dans des classes à l'école, par exemple, on était 30 ou 32, il y avait une ou deux personnes métisses. Donc c'était quelque chose de très rare. Donc c'était toujours un sujet de discussion. La couleur de ma peau. Et puis après, lorsque j'ai un petit peu grandi, également mes cheveux. Tout le monde parlait tout le temps de mes cheveux ou aussi de mes formes. Voilà, donc c'est des choses qui ont toujours marqué et qui ont toujours existé. La musique m'a beaucoup aidée, et notamment, et je ne m'en rendais pas forcément compte au début, lorsque j'étais jeune et que j'avais une discussion avec mes parents, je leur répondais en chantant. Et mon père me disait, mais ça ne va pas la tête, c'est très irrespectueux de faire ça, mais je ne m'en rendais même pas compte en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que la musique m'a aidée à traverser beaucoup de choses. Parfois j'ai l'impression d'être un peu une extraterrestre, et ça m'isole un petit peu parce que je suis très respectée dans la ville de Berlin où j'habite par rapport à mon art, mais je n'ai pas l'impression qu'ils me comprennent vraiment et qu'ils comprennent ce que je fais. Pour ce qui est de la musique soul, en fait, vous savez, quand on est artiste, au début, parfois, enfin souvent même, on choisit pas le genre de musique qu'on aime ou qu'on va faire, ça nous choisit en fait. Et ça a vraiment été le cas avec la musique soul, je pense que ça fait partie de moi et que ça a fait partie du coup de mes choix et ça a été un enchaînement naturel.
C'est beau, voilà Joy, avec ses cheveux, ses mots, sa musique et ses états d'âme en résonance totale avec l'esprit de la soul américaine d'un autre temps.
Alors on se demande quand même ce que peut donner de la soul chantée dans la langue de Goethe.
Eh bien Jean-François, je vous propose de laisser traîner vos petites oreilles sur ce coup d'extrait rien que pour nous.
In letzter Zeit hatte ich das Gefühl, als hättest du was auf deiner Seele, als wäre da was, das dich in deinem Herzen quält. You gotta stand and fight for the thing you love, yeah, yeah.
Et ben ça fonctionne très bien, visiblement.
Ouais, c'est, ça se ressemble de toute façon.
Voilà, magnifique. Let Yourself Be Loved, le dernier album donc, de la nouvelle reine de la soul, Joy Donnellan. C'est dans les bacs à découvrir dès aujourd'hui.
Oui,
merci
exactement.
Merci José. Grand Mercal, Ojoun, qui n'est pas réunionné Alain, non. Il est breton.
On ne peut rien vous cacher, Jean-François. À la fin de son cursus, Guillaume Chartin, dit Ojoun, a commencé à travailler dans une boîte de communication, mais cela ne lui a pas plu. En fait, il avait surtout besoin de bouger, de voyager. Quand il s'est décidé, la Réunion était une évidence, car il y a grandi jusqu'à ses 7 ans. Mais ce n'est pas tout. Déjà, il adore le maloya, rythme roi de l'île, sur le fond et sur la forme. Et puis, il cherchait une créolisation, c'est-à-dire un art de vivre ensemble et rattacher sa musique à un melting pot qui n'est pas une utopie sur cette île. Il composait tous les matins, puis partait ensuite à la rencontre d'un maximum de monde. Ceci lui a par exemple permis de découvrir le superbe projet Wayo Audio qui met à disposition une grande banque de sons. Et puis après qu'avec cette grande banque de sons, il a réussi aussi à mélanger, à mixer différents sons en plus de ses propres captages, comme par exemple dans cette composition où nous pouvons entendre des oiseaux enregistrés à Sillaos lors d'une randonnée qu'il a faite au Piton des Neiges. Mais d'où est venue l'idée du héros chinois, ce violon chinois?
Exactement. Alors moi, je dis héros. Après, je ne sais pas exactement comment on parle. Comment on le dit, pardon. Cette idée-là, en fait, du héros chinois, c'est que, bah, en fait, il y a une grosse communauté chinoise à La Réunion. J'ai des amis chinois de La Réunion. Bon, bien qu'on n'entende pas forcément en fait cet instrument à La Réunion, c'était une manière de quand même faire référence à cette communauté, de faire référence à cette identité-là. Et puis c'est un instrument que je trouve hyper beau en fait, hyper intéressant en termes de sonorité quoi, et d'harmonie. C'était un peu cette idée-là finalement de rendre hommage, quoi, toujours, encore une fois.
Ojun, tout le monde dans VMDN sur RFI. Alors pourquoi ce morceau a-t-il été aussi complexe à réaliser pour lui ?
Ça commence par une boucle de guitare blues. Ensuite, Ojun a ajouté une sorte de roulement maloya, du kayambe, un picker, des voix, des synthés, ainsi que ce fameux héros chinois. Beaucoup de choses donc. Il a construit cette chanson de telle manière que ces éléments puissent se succéder, s'entremêler, apparaître, puis disparaître avant de finir en une sorte de grand melting pot où tout cohabite. Son intention était de rendre hommage au traité du tout monde d'Édouard Glissant, poète et philosophe martiniquais, et à sa pensée si féconde. Le tout monde est une manière de penser la mise en interaction des idées, des cultures et des hommes qu'il trouve particulièrement positives, puisque l'idée est que chaque culture s'intervalorise afin de créer quelque chose de tout à fait imprévu. C'est-à-dire que, peu importe le lieu, la tradition ou la culture dans laquelle nous vivons, nous sommes tous obligés de tenir compte des autres langues et des autres processus culturels pour se définir. Nous sommes donc très loin des anciens absolus consistant à définir des identités de manière stricte, puisque dans ce monde mondialisé, nous portons tous en nous une partie de l'histoire de l'humanité. En bref, c'est un processus d'altérité globale que Guillaume a pu observer de manière locale à l'île de La Réunion et qu'il a essayé à son échelle de retranscrire en musique.
Et quel est son objectif ?
Mettre en musique des itinéraires, des instants de vie, du patrimoine sonore et humain. Il a aimé ce melting pot créole, hindou, musulman, chrétien, une richesse sonore époustouflante pour lui.
Oui, il a mis la pochette du disque aussi, quelques mots, Alain, elle est plutôt originale. Hein.
Oui, c'est l'imagerie Jean-François qui représente le message codé d'un célèbre pirate de La Réunion qui a sévi au 7e siècle, Olivier Levasseur, alias Labuse. Mais pour quelle raison l'une de ses phrases lui est-elle restée ? Mon trésor est à celui qui saura le prendre.
Effectivement, merci de mettre le point là-dessus. C'est pas souvent. Et ben, du coup, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marqué depuis enfant. En fait. Je me suis dit, quel panache cet homme. Je sais pas ce qui est de l'histoire, du récit, de la fiction. En même temps, avec les pirates, c'est toujours un peu cette idée-là. Hein. On sait jamais trop ce qui est du vrai, du pas vrai. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça... Je trouvais que c'était une phrase plein de panache, en fait. Mon trésor à celui qui saura le prendre. Et finalement, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça sur... Enfin, voilà, en filigrane, sur la pochette de mon album. Parce que c'est un peu le cas, en fait, quand on sort un CD et quand on fait un projet artistique. Moi, j'étais fier de moi, en fait, et j'étais fier de ce que j'avais pu proposer. Mais en fait, à partir du moment où je l'ai sorti et à partir du moment où il existe, en vrai, et que je le propose aux auditeurs, et que je le propose sur scène, ben, il m'appartient plus. Et du coup, ce que les gens vont y trouver, ce que les gens vont pouvoir y entendre, ben, tout ça, moi, ça m'appartient pas, et encore heureux, c'est très bien. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était quand même un petit trésor. Enfin, cet album, c'est mon premier. Ben, c'est un projet de vie, quoi, carrément, en fait. C'était quand même mon bébé, quoi. Et donc, voilà, celui qui saura le prendre, c'était un peu cette idée-là, je trouvais. Enfin, c'était rigolo de mettre ça en filigrane, cette histoire en filigrane, quoi.
Où ça va, Ojun ? Alors, à la rentrée aussi, Alain, pour ce premier Café Gourmand de la saison, nos artistes ont droit à vos fameux proverbes ou citations.
Et oui, Ojun n'a pas été en reste. Jean-François, je rappelle l'intitulé de son opus « Bas de carré », que l'on traduit par « se promener ». Alors, de ces trois proverbes et citations à base du verbe « promener », laquelle, lequel, lesquels pourraient-ils faire sien ou pas ? Pour qui peut se promener à loisir, même la jungle est une route royale ? Proverbe cingalais, ou bien plutôt que de se promener sur la rive et regarder le poisson d'un œil d'envie, mieux vaut rentrer chez soi et tisser un filet, proverbe arabe, ou encore qui promène son chien est au bout de la laisse, de Serge Gainsbourg.
C'est très marrant, c'est vraiment chouette. Les trois sont vraiment super. C'est une vraie question. Là, je crois que la première, le proverbe sénégalais, vous pouvez me le redire ?
Proverbe cingalais. Pour qui peut se promener à loisir, même la jungle est une route royale.
Ouais, je crois que ça me parle bien, cette idée. Ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi l'idée de se perdre un peu dans l'idée de se promener à loisir. Et du coup, je crois que c'est le principe du voyage, en fait, de se perdre, d'aller se perdre. Et que, du coup, le voyage, pour moi, n'implique pas forcément le mouvement, en fait. Le mouvement n'implique pas forcément le déplacement. Je comprends un peu ça dans ce proverbe.
Merci infiniment, John.
Merci à vous, c'était super. À bientôt.
Le morceau s'appelle Bas de saisie et l'album Bas de carré d'Ojun, il est sorti sur le label 18h48. Il sera le 7 octobre en showcase au label justement à Paris, le 30 avec Fakir, l'Hydrophone à Lorient en Bretagne, le 4 novembre avec Blanche au Hasard Ludique à Paris et le 27 janvier prochain, release party de l'album au Hasard Ludique à Paris, bien sûr. Merci beaucoup Alain, merci aussi à José, Amélie et Fanny. Dans un instant, le journal. On se retrouve lundi avec Philippe Jeunada pour son roman « Au printemps des monstres » paru chez Miel et Barreau. Et vous m'en direz des nouvelles.
RFI